Bonsoir, le président de la République prend la riposte contre Ebola en main et la place sous sa supervision directe. Mais le ministre de la Santé n'accepte pas cette décision et démissionne. Il parle de cacophonie et d'un échec à venir dans la lutte contre cette épidémie. Nous analyserons les problématiques de l'actuelle épidémie d'Ebola à l'est de la République démocratique du Congo depuis bientôt une année. Ce n'est pas encore la saison des grosses températures, mais on imagine bien que ça va beaucoup, beaucoup chauffer demain samedi au siège du Sénat à Kinshasa. Et pour cause, c'est demain qu'aura lieu l'élection du bureau définitif du Sénat. 7 postes sont à pourvoir. Et pour ce qui concerne la présidence de cette chambre du Parlement, c'est Bati Lukwebo et Tambwe Mwamba, deux anciens collaborateurs de Joseph Kabila, qui vont en découdre. Pour évoquer ces actualités, nous serons avec Jean-Marie Nkambwa, journaliste au groupe de presse L'Avenir. Jean-Marie Nkambwa, bonsoir.
Bonsoir, confrère.
Mais aussi Joël Kadé Ndanga, bonsoir.
Bonsoir, chers confrères, bonsoir aux auditeurs.
Éditeur du journal Impact News, paraissant à Kinshasa. Et enfin, Brunel Kachi, journaliste à Life Télévision, émettant de Kolwezi, province du Lualaba. Brunel Kachi, bonsoir.
Bonsoir, chers confrères, et bonsoir à tous et à toutes.
À tous donc, bienvenue dans votre émission. Et pour permettre de nous mettre déjà en condition, voici la revue de presse.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par la démission du ministre de la Santé, Oli Ilunga. L'annonce a été faite par Oli Ilunga lundi 22 juillet 2019 via son compte Twitter, enseigne 7sur7.cd, qui indique que dans sa lettre de démission adressée au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le ministre de la Santé indique qu'il ne peut exister plusieurs centres de décision au risque de créer des confusions dans la riposte contre Ebola. Oli Ilunga Kalenga dit tirer les conséquences de la récente décision de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a jugé bon de placer la conduite de la riposte à l'épidémie de la maladie à virus Ebola sous la supervision directe de la présidence de la République, ajoute le potentiel. Dans sa lettre de démission, le ministre a déploré le fait que ce secrétariat technique ait été mis en place par un décret antidaté et contresigné à son insu par le ministre assumant son intérim alors qu'il se trouvait le 18 juillet 2019 en mission de supervision de la riposte à Goma, rapporte actualité.cd. Comparant la riposte à une guerre, ajoute le portail, le démissionnaire a indiqué que les lignes des commandements doivent être clairement identifiées et définies. Pour le faire, la démission du ministre Ilunga est une fuite en avant. Le tabloïd évoque notamment les résultats mitigés récoltés par les équipes des ripostes dont il a coordonné les activités pendant 11 mois, soit d'août 2018 à juillet 2019. On retient de ces démissionnaires de dernière heure l'image d'une personne qui n'a pas eu l'honnêteté ni le courage d'avouer ses insuffisances dans la gestion de son portefeuille ministériel, conclut le quotidien. Rendons-nous au Sénat à présent. La campagne pour l'élection des membres du bureau définitif du Sénat a débuté mercredi 24 juillet au Palais du Peuple. Les candidats ont présenté leur programme d'action dans des discours devant les sénateurs réunis en séance plénière sous la direction de Léon Mamboléo, président du bureau provisoire de la Chambre haute du Parlement, rapporte l'agence congolaise des presses. Alexis Tambwe-Mwamba, candidat du FCC, a promis d'être au service de tous les sénateurs, note la prospérité. Désireux de faire du Sénat une institution de référence, le candidat du FCC tient à conforter son positionnement et son rôle au sein des institutions de la République en mettant en avant-plan ses fonctions de légiférer et de contrôler l'action gouvernementale en étroite collaboration avec l'Assemblée nationale, fait remarquer fort des As. Modeste Baïti, le challenger d'Alexis Tambwe, fait savoir qu'il recherche des voies et moyens susceptibles de transformer le social des Congolais. Cela passe par une chambre haute du Parlement qui comprendra l'absolue nécessité d'une cohésion nationale sous le fondement d'un état de droit et d'une gouvernance politique et démocratique, conclut le quotidien. L'amer souvenir de la récente déconfiture de Lambert Mende Omalanga dans la course au poste de gouverneur de Sankuru demeure encore pris dans la mémoire individuelle et collective, rappelle le africanews.rdc.net pour qui, en cas de vote secret, des surprises d'État ne sont nullement à écarter. Le potentiel relève pour sa part le fait selon lequel la majorité parlementaire incarnée par la coalition FCC-CACH s'est lancée divisée dans la campagne électorale pour briguer cette poste au bureau du Sénat. Le FCC n'a réservé aucun poste au CACH, son partenaire à la coalition, explique le tabloïd.
Merci Kelly Nkouté. Jean-Marie Nkamboa, journaliste au groupe de presse L'Avenir. Nous continuons la mise en bouche avant nos deux sujets de ce soir. À ce stade, quel autre sujet souhaiteriez-vous nous partager en avant-goût?
Ben, l'autre sujet que je voudrais que l'on partage, c'est d'abord c'est saute mouton que le président de la République a eu à visiter dernièrement. Au-delà de la satisfaction du président de la République, mais les populations continuent à observer que dans certains milieux, surtout au niveau des Soussimas, au niveau des 24, au niveau des 24, surtout au niveau de la SANEF, les travaux n'ont pas tellement évolué en dépit du fait que les temps ne fait que s'écouler et les embouteillages ne font que compliquer la circulation dans cette ville de Kinshasa où les routes sont pratiquement les mêmes, tracées dans la même direction que ce que les colonisateurs belges avaient fait à l'époque. Au-delà de cette réalité, il est aussi constaté la continuité ou bien la poursuite des contrats de gré à gré, en dépit du fait qu'il s'agit des projets d'urgence, mais il est quand même constaté que ces contrats de gré à gré cachent beaucoup de zones d'ombre que d'aucuns voudraient que le gouvernement soit nommé le plus rapidement possible afin qu'elle mette un terme à cette situation. Il y a aussi des Congolais qui craignent que derrière ces contrats de gré à gré, qu'on assiste à des 10%, 20%, donc comportement que nombreux voudraient qui ne se répercute plus, surtout que Félix Tshisekedi a apporté une nouvelle dynamique. Alors on voudrait que les choses puissent évoluer autrement que ce qu'il y a. Les Kinois sont aussi étonnés de constater que les travaux des sauts de moutons ont été entrepris sans que des études préalables, les études d'impact ne soient effectuées. À en croire les propos de Wing de l'OVD dernièrement qui a fait voir qu'au niveau des Soussimas, il y a la rivière Gombe, il y a le fleuve Congo qui est non loin. Les Kinois sont seulement étonnés de constater que ce n'est pas parce que le président de la République a visité les chantiers que l'on doit épingler ces points-là. Ce sont des points qui devaient être épinglés dans les études d'impact et c'est après analyse que les travaux auraient dû commencer. Malheureusement, ils constatent que les travaux ont commencé sans qu'on ait effectivement des études d'impact et ce qui coche un peu.
Merci.
Voilà ce que les Kinois, donc, étant donné que nos journalistes, nous sommes que les porte-voix.
Merci.
C'est là qu'ils ne peuvent pas s'exprimer. Voilà, ouais. Les Kinois s'expriment de cette façon-là, mais ils vous diraient quand même que les choses, non seulement que les choses changent,
avance.
Mais que le gouvernement puisse, que les chefs de l'État puissent nommer un gouvernement responsable qui aura pour tâche de suivre tous ces projets et de faire rapport à la population congolaise.
Merci Jean-Marie Nkamboa. Joël Kadé Ndanga, éditeur du journal Impact News, paraissant à Kinshasa. Votre commentaire libre.
Je n'aimerais pas revenir sur ce que mon confrère Nkamboa disait tantôt, mais moi j'ai circulé avant-hier et hier, j'ai vu la police de la territoriale, la police de circulation routière en action. En tout cas, les embouteillages, depuis que le chef de l'État est passé dans les chantiers, ont sensiblement diminué. Mais également, il faut connaître l'incivisme de chauffeurs quinois. Jean-Marie Nkamboa, il sait comment les chauffeurs conduisent. Cela, on ne peut pas responsabiliser le chef de l'État. C'est comme quelqu'un qui a des poubelles chez lui, qui aimerait que le chef de l'État vienne les vider. Mais là où je voudrais intervenir, c'est compatir avec nos confrères de la RTVS 1, qui vont bientôt totaliser un mois sans travail à cause de la coupure du signal de leur télévision à la suite de l'émission La Mouka spéciale, La Mouka. Je compatis et je condamne cette manière de faire où on ne veut pas laisser au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication de faire son travail lorsqu'il y a des dérapages, qu'on puisse saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication pour intervenir, que découper le signal. Et je condamne également ceux qui s'acharnent ou qui disent que c'est la présidente de la République ou c'est le conseil spécial du chef de l'État, monsieur François Béa, qui aurait donné les ordres. En quelle qualité, à quel titre? Et on sait qui a monté tout ça pour que le nom du conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité soit inclus dans ce dossier ici. Nous le regrettons. Je regrette également et je condamne la lettre du ministre de l'Intérieur qui a interdit les émissions interactives organisées par Top Congo avec les bourgmestres et la population. Nous nous sommes battus dans ce pays pour qu'il y ait la loi sur l'accès à l'information, le droit à l'information. C'est une obligation des autorités d'informer la population. Alors, cet ancien bourgmestre de la Gombe, dont on connaît qu'il a laissé trop de cadavres dans les tiroirs lorsqu'il était bourgmestre, il ne veut pas que l'on puisse exhumer ces cadavres. Et il interdit. Et pourtant, on connaît comment il est parvenu là. Vous pouvez poser la question à ceux de Canada qui connaissent dans combien de combines il est inclus. Nous condamnons cela. Merci. Et bientôt, Kasunga Chilonde, le président de l'UNPC, a dit, nous allons entamer les actions de protestation. Makambo ne retire pas son interdiction.
Merci, Joël Kadendanga. Brunel Kachi, journaliste à Life Télévision, émettant de Kolwezi en province du Lualaba. Essayez de faire court pour qu'on entre vivement dans les deux thèmes prévus ce soir. Votre avant-goût informationnel, peut-être les nouvelles, quelques nouvelles très rapidement ramassées du Lualaba.
Voilà l'actualité à Kolwezi dans la province du Lualaba. Chers confrères, reste caractérisée par la hausse depuis les transports en commun. Les raisons de cette redimension ne sont pas connues officiellement. Mais vraiment, ce qui fait mal, c'est de voir que l'autorité urbaine, qui est censée contrôler la fixation et fixer les prix des transports en commun, est sans foutiste, quel que soit le clair de la population. Et, chers confrères, vous pouvez vous imaginer, de 250 francs à 500 francs congolais pour les taxis bis et pour les minibus. Les prix sont sortis de 500 francs à 1000 francs. Et j'ai fait dire ici qu'avant la campagne électorale, le maire de la ville de Kolwezi avait initié une société de transports en commun, dénommée Sokrapol. Et c'est malheureux de constater que ces bus n'existent plus. Ils n'ont pas pris même une année, et comme lui-même était candidat malheureux, et comme c'était une petite politique de bonne impression pour défense électorale, nous sommes en train de les croire.
Merci.
Les agents même de cette soi-disant société de transport instable n'ont jamais été payés, comme preuve, ils ont manifesté le lundi dernier, et nous sommes en train vraiment de dénoncer cette gestion qui ne soit pas l'intérêt de la population de la ville de Kolwezi, et nous appelons vraiment les gouverneurs de province à intervenir dans ce secteur parce qu'il est appelé affectueusement à ta solution.
Merci Brunel Kachi, ceci nous conduit à notre premier thème de ce soir. Deux jours après que le chef de l'État ait placé la riposte contre Ebola sous sa supervision directe, le ministre de la Santé publique a démissionné de son poste. C'était lundi de cette même semaine. Oli Ilunga évoque plusieurs raisons pour justifier sa décision. L'essentiel de sa lettre de démission, lue ici par Blaise Shindani.
Oli Ilunga s'est dit choqué parce que, selon lui, ce secrétariat technique du comité sectoriel ait été mis en place par un décret du Premier ministre et antidaté au 18 mai 2019 et contresigné à son insu par le ministre et assurant son intérim au moment où il s'est trouvé le même 18 juillet en mission de supervision de la riposte à Goma. Comme dans toute guerre, écrit le ministre, les lignes de commandement doivent être clairement identifiées et définies. Il ne peut y avoir plusieurs centres de décision au risque de créer des confusions et une cacophonie préjudiciable pour la riposte. Prenant acte de la décision du chef de l'État de placer la conduite de la riposte sous sa supervision, Oli Ilunga affirme, je le cite, « J'anticipe la cacophonie préjudiciable à la riposte qui découlera inévitablement de cette décision. Je viens, par la présente, vous présenter ma démission de mes fonctions de ministre de la Santé. » Fin de citation.
Merci Blaise Shindani. Jean-Marie Kamboa, quelle analyse faire du développement du feuilleton Ebola en République démocratique du Congo ces derniers jours?
Confrère, il est vrai que la décision du ministre de démissionner a surpris plus d'une personne, mais ceux qui, les journalistes et autres qui couvrent les secteurs comprendront que Dans cette lutte contre Ebola, il y a eu pas mal de difficultés, il y a eu pas mal de problèmes. Contrairement à l'Équateur où le virus avait été vaincu pratiquement dans peu de temps, au niveau de l'Est du pays, il y a une nouvelle dynamique, il y a des nouvelles réalités, c'est-à-dire non seulement qu'il y a l'insécurité, mais les populations ont du mal à accepter ces virus. Les populations estiment que c'est un virus qui leur a été imposé, de même que la guerre leur a imposé dans l'objectif de voir cette population se vider pour permettre à ceux-là qui tirent les ficelles et consorts d'installer d'autres populations étrangères. Alors, cette population réagit de la sorte. Nous sommes rendus compte qu'il y a eu autant d'émissions pour tenter de dissuader la population, pour tenter de la conseiller, de coopérer avec les équipes de riposte, mais les attaques contre les équipes de riposte continuent à être enregistrées. Malheureusement, c'est dans les contextes d'abord qu'intervient la décision de la présidence de la République, celle de créer un comité technique avec à sa tête un autre expert en la matière. Ce n'est pas du tout une mauvaise chose que la présidence ait souhaité que la question soit gérée à son niveau. C'est peut-être le temps, c'est peut-être la période qui pose un peu problème dans la mesure où, à l'issue des discussions entre FCC et CACH, beaucoup de gens, tous les Congolais, attendent la nomination du reste des membres du gouvernement. Et ce sont ces membres du gouvernement qui auront chacun un cahier des charges, qui auront chacun des objectifs réalisables, appréciables, et que la hiérarchie pourrait sanctionner à un moment donné qui seraient les véritables responsables de la question.
Jean-Marie Kamboa, Jean-Marie Kamboa, ça fait quand même bientôt une année. Est-ce que le président n'avait pas raison de trouver peut-être les autres animateurs et de reconfigurer cette lutte?
Confrère, je viens d'étaler les difficultés auxquelles cette lutte contre Ebola est confrontée dans cette partie du pays.
On vous a bien compris.
Je me rends aussi compte que la lutte contre Ebola implique beaucoup de partenaires, notamment la communauté internationale. Et ça implique aussi la circulation de beaucoup de masses d'argent.
Jean-Marie, vous avez évoqué ça, mais vous n'avez toujours pas répondu à notre préoccupation. Est-ce que une année après que Oli Lunga gère cette épidémie, est-ce que ce n'est pas quand même un peu un échec pour lequel le président de la République voulait replacer des nouveaux animateurs, par exemple il n'avait pas remplacé le ministre, mais il avait apporté du sang neuf, selon lui.
Je pense que la lutte contre Ebola a été entreprise par le gouvernement passé. Maintenant, nous avons un nouveau chef de l'État. Le nouveau chef de l'État voudrait imprimer sa dynamique, ce qui est tout à fait normal. Mais nous pensons tout simplement que cette dynamique ne peut être bien intériorisée qu'à travers un gouvernement responsable. Il est vrai que M. Ilunga gérait les affaires courantes et il lui était difficile d'engager le gouvernement dans beaucoup de trucs, dans beaucoup de choses.
Autrement dit, Jean-Marie, le ministre a-t-il raison aujourd'hui de démissionner comme il a fait avec les justificatifs qu'il a donnés?
Non, par rapport aux raisons qu'il a avancées, par rapport au fait que la lutte contre Ebola doit être coordonnée, moi je pense que de son côté, le ministre avait raison.
Merci Jean-Marie Kamboa, Joël Kadé Ndanga. Pensez-vous, un peu comme Jean-Marie Kamboa, que dans l'épisode qui concerne la démission du ministre, c'est le ministre qui a un peu plus raison que le président de la République avec ses nouvelles mises en place?
Non, il ne faudrait pas. D'abord, l'approche de Jean-Marie Kamboa, je ne la comprends pas personnellement, parce que le chef de l'État vit sur la terre. Nous avons dans cette émission la semaine passée, personnellement moi j'ai demandé la démission de M. Oli Ilunga. Et j'avais demandé la démission de M. Oli Ilunga depuis plusieurs mois au cours de cette émission parce que il a prouvé son incompétence, non seulement à la tête de ce ministère, mais dans le traitement de la République contre la maladie à virus Ebola. Nous avons dit Félix Kabangé, qui a étudié ici au pays, qui connaît les réalités du pays, a géré cette situation ici, ensemble avec les professeurs Dr Momat, toute son équipe. Et Oli Ilunga arrive, il enlève ceux qui connaissent les réalités du terrain, il invite ses enfants qui sont belges pour être ses conseillers. Voilà l'origine de l'échec. Et nous l'avons décrié au cours de cette émission dans beaucoup de médias où nous sommes intervenus. Nous l'avons décrié devant vous, Donna Madimba. Et la semaine passée, nous avons demandé sa démission. Mais malheureusement, cette démission, il aurait dû se retirer tout simplement des affaires. Mais c'est une fuite en avant. Une fuite en avant, comment? La gestion des fonds destinés à la réplique contre la maladie à virus Ebola. Comment a-t-il géré ça? Et quand vous allez voir ce que nous avons décrié la fois passée ici de Ebola business. Parce que le ministre avait pratiquement transformé la question d'Ebola en fonds de commerce pour s'enrichir.
Et vous avez l'impression que le président, qui a peut-être été élégant, hein, ne l'a pas révoqué, mais a voulu changer les animateurs de cette équipe pour justement, ne fût-ce que sur le plan technique, apporter des plus d'efficacité, c'est ça?
Donna Madimba, c'est depuis devant Guy Maté, la fois passée, que nous avons demandé au président de la République de reprendre l'action de la République contre la maladie à virus Ebola. Et nous avions proposé la semaine passée qu'il mette en place une équipe multidisciplinaire, multisectorielle. Et quand vous voyez la manière dont le président agit, c'est ce que nous nous avions demandé. Et pour cela, nous devrions acclamer le président de la République. Et vous verrez que cette maladie, ça va plus prendre longtemps, ça va s'arrêter. Mais Oli Ilunga, non seulement que, vous vous rappelez, dans la province de l'Équateur, mais on a isolé là où il y avait la maladie, c'est dans moins d'un mois que la maladie était terminée.
Tout à fait.
Dans la province, l'ex-province orientale, je crois que j'ai oublié le site, mais c'est dans moins d'une semaine que la maladie a été contenue et on a fini. Mais ici, on est à 1700 morts, s'il vous plaît. À 1700 morts, pendant une année, Oli Ilunga est incapable de mettre fin à cette maladie et vous voudriez continuer encore à gérer. Moi, je demande au-delà de ça que le chef de l'État puisse mettre en place une commission d'enquête pour examiner la gestion des fonds qui ont été donnés par les Nations Unies, par les partenaires extérieurs. Et sa tricherie, vous allez la comprendre à quel niveau. Il a écarté tous ceux qui ont géré cette maladie, notamment le professeur Muyembe, des notoriétés internationales. On a mis fin à la maladie.
Je suis pas
dans l'Afrique de l'Ouest, Guinée, Sierra Leone, Libéria.
On
c'est
les
avec
pays.
Les experts
merci.
Congolais.
Votre idée,
mais
merci.
Il les a tous écartés
merci.
Pour gérer parce que il a transformé la réplique contre la maladie à virus Ebola.
Merci,
en fond de commerce, c'était devenu Ebola business.
Merci Joël Ndanga. Jean-Marie Nkambwa, j'entends bien que
vous avez beaucoup parlé.
Jean-Marie Nkambwa, j'entends bien que vous demandez la parole. Je vous donnerai un petit moment avant de conclure cette émission pour donner vider votre idée et vos arguments autour de ça. Brunel Kachi, Jean-Marie Nkambwa dit que c'est le ministre, je résume un peu, je caricature, mais il reviendra tout à l'heure pour mieux expliciter, que c'est le ministre qui a eu plus ou moins raison de prendre sa décision vu qu'il n'a pas été bien géré. Joël Kadendanga de son côté donne raison au président de la République. Où est-ce que vous êtes, vous, dans l'analyse de cette situation?
Voilà, cher confrère, moi je n'ai jamais compris les comportements des certains politiques congolais. Quand il faut démissionner, conscient que nous avons failli, il faut chercher à culpabiliser les autres. Ici, nous l'avions dit d'ailleurs dans l'émission de la fois passée, dans le traité de la presse, nous avons fait savoir que le ministre de la Santé avait beaucoup plus besoin d'une expertise extérieure pour qu'il puisse voir comment combattre cette maladie, mais ce qu'il ne faisait pas. Ici, aujourd'hui, il doit démissionner. Nous pensons tout simplement que c'est une réponse à sa gestion, parce que lui-même est conscient qu'il a mal géré et qu'il est urgent qu'il puisse démissionner. Et donc, avec ceci, lorsqu'il est en train de s'acharner sur les secrétariats techniques du comité multisectoriel de la réponse à la maladie, plutôt, à virus Ebola, mis sur pied par le président de la République, je me dis tout simplement que c'est une politique de bonne traction, parce que, au moins, c'est une façon de faire disserter son égoïsme, parce qu'il n'a pas voulu associer tout le monde à cette lutte. Nous savons bien que cette maladie, c'est une maladie qui n'a pas un traitement spécifique. Et pour cela, il faut justement aller symptomatiquement, soit par la vaccination, tel qui s'est fait déjà. Mais au-delà de ça, il faut une expertise tout à fait approfondie pour que les différentes sagesses ou les différentes connaissances soient en jonction pour une solution palliative soit là. Et si les isoler la masse, il a pour mission de veiller au bon fonctionnement des institutions, ça c'est dans les cadres administratifs. Mais au moins, au-delà de ça, c'est qu'il a pour l'obligation de voler au secours des Congolais que nous sommes. Et au-delà de ça également, lorsqu'il est en train de dire là, il a peur à propos d'un nouveau vaccin contre Ebola, dont plusieurs pressions extérieures sont exercées pour la phase expérimentale sur les sols congolais. Je me dis que c'est un mensonge à ce qu'il ouvre. Et au-delà de ça, tout simplement, c'est une question de moralité. Il doit se mettre en tête aujourd'hui que la porte de tout le monde est beaucoup plus importante. Tout le monde doit apporter le meilleur de lui-même.
Oui, Brunel, mais est-ce que le président n'aurait pas gagné beaucoup en poussant son élégance jusqu'à consulter quand même le ministre qui était sur ce dossier? Le ministre s'est senti frustré de n'avoir pas été consulté. Vous pensez que le ministre a un peu grossi les faits?
Cher confrère, mais cet arrêté a été contresigné par le ministre qui était en train de jouer son... Ce décret, plutôt, a été contresigné par le ministre qui était en train de jouer son intérim. Je ne vois pas en quoi est-ce que ça pêche. Parce que au-delà de ça, c'est tout simplement question des communications. Je sais au moins que au sein des ministères, le schéma communicationnel est déterminé. Et lorsque cette décision a été prise, il a été informé. Et si il revient pour dire que le président de la République ne l'avait pas consulté, je me dis tout simplement que c'est une politique de défense. Et au-delà de ça, tout simplement, il faut à que nous puissions essayer de pouvoir rappeler à ce dernier qu'il avait pour mission de sauver des vies. Et s'il le doit agencer aujourd'hui des raisons à tête pour dire qu'il va y avoir des retombées tout à fait néfastes, je me dis tout simplement que c'est une façon de faire voir vraiment qu'il n'avait pas la volonté de voler au secours de cette population.
Merci.
Pour laquelle il se disait à tout moment qu'il était engagé dans la lutte de sauver des vies. Allô?
Merci Brunel Kachi, votre idée a été entendue. Nous allons entamer notre deuxième sujet de ce soir, mise en place du bureau définitif du Sénat en République démocratique du Congo. C'est demain samedi qu'est prévue l'élection des membres de ce bureau. 7 postes sont à pourvoir et pour ce qui concerne la présidence de cette chambre du Parlement, c'est Bati Lukwebo et Tambwe Mwamba, deux anciens collaborateurs de Joseph Kabila, qui vont s'affronter pour nous faire une idée de ce que sera l'ambiance ce samedi au Palais du Peuple. Revivons d'abord l'ambiance du début de la campagne, mercredi dernier, avec Billy Ivan Lutumba.
L'immense immeuble du Palais du Peuple, qui abrite la chambre haute du Parlement, a quasiment changé de couleur. Les murs sont couverts des banderoles des divers formats des candidats au poste du bureau définitif du Sénat. Leurs sympathisants sont également en nombre sous le parvis du siège du Parlement, battant campagne en faveur de leur leader, qui en ce moment précis se retrouve dans la salle de plénière en train de présenter leur discours programme en vue de convaincre les électeurs. Bati Lukwebo, candidat président de l'FDC et allié, a ouvert le banc avec son discours dans lequel il s'engage à ce que le Sénat puisse jouer un rôle dans la sous-région en nouant des relations solides avec les autres institutions parlementaires. Pour ce qui est du contrôle parlementaire, justement, Bahati s'engage à encourager tout sénateur initiateur d'un instrument de contrôle et appuiera toute initiative tendant à sanctionner l'action de l'exécutif. Prenant parole en second lieu en tant que deuxième candidat président, Georges-Éric Makambu a présenté ses potentialités devant ses pairs sénateurs pour clôturer avec un désistement en faveur de Alexis Tambwe Mwamba, estimant qu'il n'a pas assez de poids pour espérer une quelconque victoire. Tambwe Mwamba, comme troisième candidat président pour le compte du FCC, a souhaité voir le Sénat être une institution phare de la République et il doit œuvrer pour que le gouvernement agisse en vue de mettre fin à la pauvreté de la population et accroître des initiatives pour la lutte contre Ebola dans l'est du pays. S'adressant à Bati Lukwebo, Tambwe Mwamba lui témoigne sa conviction de poursuivre à nouer de bonnes relations, quelle que soit l'issue des élections de samedi. Depuis le Palais du Peuple, siège du Sénat, Billy Van Lutumba, Radio Okapi.
Jean-Marie Nkamboa, journaliste au groupe de presse L'Avenir. La question pour ce deuxième thème, c'est qui pensez-vous qui va remporter la présidence du Sénat demain? Alexis Tambwe Mwamba ou Bati Lukwebo? Mais avant de répondre à cette question, est-ce que en 30 secondes, vous pouvez vider votre réaction au premier thème, s'il vous plaît?
Oui, Donna Madia, je voulais tout simplement préciser trois petites choses. Le chef de l'État est tout à fait compétent, est tout à fait capable, est tout à fait autorisé de pouvoir nommer un secrétariat technique, qui est une sorte de conseiller en matière d'Ebola. La deuxième petite chose, c'est le fait que les peuples congolais ont besoin pour l'instant d'un gouvernement qui sera responsable, d'un ministre de la Santé qui aura comme priorité de prendre à bras le corps cette question d'Ebola et d'y mettre un terme. Détroit. Je voudrais tout simplement dire que dans cette lutte contre Ebola, il y a circulation de beaucoup d'argent. Et je ne pense pas que la communauté internationale qui dépense beaucoup d'argent peut admettre une mauvaise gouvernance de ces sommes d'argent. Raison pour laquelle moi j'ai conclu à un audit afin de permettre de savoir comment cet argent a été géré.
C'est un peu ce que demandait aussi Joël Kadé-Ndanga. Ok, la réponse à notre deuxième thème, s'il vous plaît.
Voilà. Je passe à votre deuxième préoccupation pour dire que les élections au Sénat opposent un candidat du FCC et un autre qui a été exclu. Le candidat du FCC a un avantage numérique d'avoir une bonne fourchette de sénateurs, pendant que l'autre ne vise que sur le changement des comportements, d'attitude de certains des sénateurs. Donc c'est une élection qui dont les candidats du FCC a la bénédiction de ses pairs, pendant que l'autre n'en a pas. Donc mathématiquement, c'est les candidats du FCC qui a beaucoup de chances de l'emporter. Mais toutefois, comme je venais de le dire, il faut être prudent parce que c'est le sénateur seul qui sera devant l'urne. C'est tout à fait normal qu'il puisse aussi voter par rapport à ses prétentions, par rapport à ce qu'il voudrait.
Jean-Marie Nkamboa, vous êtes vous-même journaliste et vous pouvez vous faire un avis pour éclairer l'opinion. Pour ce qui est des revirements de situation, il y a à peine quelques jours qu'on a vu un candidat du FCC être battu par un indépendant dans l'élection du gouverneur au Sankuru, donc un revirement est possible. Mais juste pour éclairer l'opinion, vous en tant que journaliste, qui pensez-vous qui a le meilleur profil pour avoir ce poste et servir le peuple correctement?
D'abord, pour revenir à l'élection de Sankuru, je voudrais préciser à nos auditeurs que les contextes sont tout à fait différents. Au Sankuru, il y avait des conflits entre les sociétaires de la majorité parlementaire, entre les sociétaires du FCC, et parmi ces sociétaires, il y en a qui pensaient que c'est Lambert Mende qui en était l'instigateur et consort, et pour ce faire, il fallait à tout prix les sanctionner. Donc, dans l'autre camp de M. Moukoumad, il y avait beaucoup de cadres du FCC qui ne voulaient pas que Lambert Mende puisse l'emporter, et c'est ce qui s'est passé.
Qui pensez-vous, Jean-Marie Nkamboa, pourra avoir le meilleur profil pour diriger le Sénat?
Au Sénat, je pense que Thabo Mwamba a les meilleurs profils, a une bonne expérience qu'il peut mettre au profit de la République. Mais je me rends compte qu'il y en a qui veulent mettre en exergue une certaine diplomatie parlementaire, voulant faire croire que Thabo Mwamba serait empêché de pouvoir voyager, de pouvoir... Bon, je voudrais tout simplement le calmer pour dire que la diplomatie parlementaire sera très bien menée et au profit de toute la République. Et je ne pense pas que tout ce qui a compression internationale et ailleurs puisse avoir un impact significatif sur le fonctionnement du Sénat.
Merci Jean-Marie Nkamboa, Joël Kadé-Ndanga, éditeur du journal Impact News, paraissant à Kinshasa. Pour ce deuxième thème, entre Batilukwebo et Thabo Mwamba, qui voyez-vous être vainqueur?
Non, moi je me suis toujours posé la question. Je ne sais pas si au FCC là, il n'y a pas les Bapapi Mpungu, il n'y a pas les Kanga, il n'y a pas des jeunes gens que Kabila peut présenter à certains postes. Il n'y a que des mêmes noms qui reviennent toutes ces années, toutes ces 18 années ici. Il n'y a, si c'est pas Boshab Mende, Thabo Mwamba. Donc, de tout ce temps, il n'a que ça comme expertise. Je me demande, mais maintenant, les autres là, ne sont là que pour acclamer, ne sont là que pour qu'on leur fasse porter l'épaule pour répondre.
À l'Assemblée nationale, il y a quand même un nouveau visage. Il y a Madame Mabunda.
Madame Mabunda, elle est dans le rouage politique depuis plusieurs années. Elle a été PDG du FPI, ministre et finalement, président de l'Assemblée nationale. Donc, ce sont des mêmes noms. Bon, chers confrères, et quand vous regardez qu'il s'agit de Tambo Mamba ou de Bahati, vous avez posé la question à mon frère par rapport au profil. Tambo Mamba, c'est ancien dignitaire mobutiste, rebelle du RCD, celui qui avait revendiqué et qui s'était réjoui de la mort des Congolais lorsque un avion d'une compagnie civile a été abattu, il s'en était réjoui. Donc, et la même personne qui est poursuivie en Belgique et même aux États-Unis d'Amérique, mais c'est cette personne-là que l'on
Jean-Marie Kamboa dit le contraire.
Vous oui, bon,
il réfute ces informations.
C'est pour des raisons évidentes. Non, il est poursuivi aux États-Unis dans le cas de Lewis. Il est poursuivi en Belgique pour détenir beaucoup d'argent, un compte qui a plus de 68 millions, quelque chose comme ça.
Donc vous pensez que s'il est président du Sénat, il risque d'être un président local.
Ça va perturber nos relations. Ça va perturber nos relations tant au niveau multilatéral que au niveau bilatéral avec certains pays. Ça c'est évident, c'est évident. Ça n'aura pas un impact sur la diplomatie bien sûr, mais ça va perturber nos relations sur ce plan-là. Mais Bahati Lukwebo, lorsqu'il faut le comparer à Tambo Mamba, c'est la nuit et le jour. Bahati Lukwebo, c'est une machine politique. Il a fondé l'AFDC avec ses propres moyens et il a bâti ce parti qui aujourd'hui a la taille qu'il a. Mais si on était logique avec soi-même.
Mais quelle chance Bahati Lukwebo a-t-il de pouvoir emporter la majorité des sénateurs qui voteront demain sont du FCC et ils prétendent qu'ils vont suivre le mot d'ordre pour voter Tambo Mamba. Bahati Lukwebo fait de la figuration, non?
Nous avons une sorte de jurisprudence dans ce pays avec Kengo. Les choses peuvent basculer. Nous avons une jurisprudence, vous veniez de le dire, bien que Nkamba puisse justifier cela par le contexte des conflits entre le pro-Mende et le contre-Mende. Mais tout peut basculer. Qu'est-ce qui existe? Le FCC, ça n'existe pas. C'est quelque chose où on a imposé aux gens pour être là sans conviction, sans idéal, sans projet.
Donc en un mot, pour vous, c'est le Bahati Lukwebo qui remporte demain.
Non, j'ai dit que tout peut arriver demain parce que le FCC, ça va jouer aussi sur leur conscience.
Mais vous souhaiteriez que ce soit Bahati qui soit le prochain président du Sénat,
En tout cas, pour l'image de notre pays, c'est mieux qu'on ait quelqu'un qui n'a pas de sang aux mains, qui est plus ou moins propre au-delà de l'imperfection qui conduit chacun d'entre nous.
Merci.
Mais sinon, ça sera encore une honte pour notre pays que des gens comme Boshab, que des gens comme Tambo Mamba puissent occuper les perchoirs de la chambre haute de notre parlement.
Merci Joël Kadé Ndanga, Brunel Kachi, journaliste à Life Télévision émettant de Kolwezi, province du Lualaba. Vous intervenez en troisième position, donc souffrez que je vous prenne un peu comme toujours l'arbitre de vos prédécesseurs. Alors, pour vous, c'est Bahati Lukwebo qui gagne ou c'est Tambo Mamba qui le fait?
Voilà, chers confrères, j'ai dit toujours que l'histoire est têtue. Vous savez comment est-ce que les temps communs pour les Congo est en train d'évoluer. C'est un peu comme pour dire un petit compagnonnage dans lequel les principes et l'intimidation. Et avec ça, je suis en train de me dire que l'histoire risque de se répéter. Vous vous souviendrez de l'histoire des Cheo Kitundu et Léon Kengo Wapondo plutôt. Il y a l'histoire récente entre Stéphane et Lambert Mende à Sankourou. Et même lorsque les confrères disent que les contextes sont différents, bon, c'est un langage qui dit, mais au moins au-delà de ça, j'ai suivi la déclaration de M. Alexis Tambo Mamba et j'ai vite compris qu'il est conscient, lui-même, que l'FCC a plusieurs personnes qui changent les tendances à tout moment et que son élection est incertaine. Félicitations à lui s'il est élu et s'il n'est pas élu, que ça ne puisse pas vraiment le surprendre parce qu'il sait au moins qu'en politique tous les coups sont permis et surtout un compagnonnage tel que les fonds qu'on met pour le Congo, il n'y a pas vraiment à espérer parce qu'au moins ils peuvent accepter avec la tête. Et être au Sénat, demain, nous savons au moins que nous allons participer à une élection des grands électeurs, des sages de ce pays. Nous pensons au moins qu'ils sont au courant de ce que fait la population. La population voudrait voir ou la population veut voir le changement et ils doivent voter. Une personne qui incarne le changement. Parce qu'ici, lorsque l'on dit qu'Alexis Tambo Mamba a bien géré, il a géré, bien sûr. Mais quel est son bilan? Vous savez, et c'est un bilan gravement détérioré, un bilan qui ne mérite pas confiance. Et nous pensons vraiment que le changement incarne dans celui qu'on appelle Bahati Lukwebo.
Jean-Marie Kamboa, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Nous avons eu deux thèmes donc ce soir. Qu'est-ce que selon vous on peut retenir comme conclusion?
Je voudrais calmer les uns et les autres pour leur dire que c'est quand même depuis plusieurs années que la guerre dans notre pays a pris fin. Ce n'est pas pour rien que nous sommes réconciliés en allant à Sun City et ailleurs. Et c'est aussi pour que cette période-là soit oubliée. Et d'ailleurs, on a eu un premier gouvernement de 1+4, signe que nous devons faire un effort pour aller de l'avant et pour travailler afin que les conditions de vie de nos populations s'améliorent. Je voudrais aussi rassurer les uns et les autres par rapport à la cohésion au sein du FCC. Le FCC, c'est cette méga plateforme qui a eu à financer différents regroupements qui avaient signé un acte d'engagement en son sein. Donc, il n'y a aucun regroupement aujourd'hui qui peut se dire que non, il a évolué en indépendant et qu'il n'a rien reçu du FCC. Donc, c'est ces regroupements-là qui les fédèrent tous, et c'est ces regroupements-là, en dépit même du fait qu'il n'a pas de personnalité juridique, mais ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas signé l'acte d'engagement. Donc, ils ont signé l'acte d'engagement en âme et conscience et au regard des objectifs de cette méga-plateforme. Et c'est tout à fait normal que cette méga-plateforme ait financé non seulement leur caution,
merci,
mais aussi leur campagne électorale.
Merci, merci.
Mais je crois aussi qu'avec la réunion de ce vendredi avec l'autorité morale du FCC, les liens seront de plus en plus rassurés pour une victoire éclatante d'Alexis Thambo Mbonimpa.
Merci Jean-Marie Nkamboa, Joël Kadet Ndanga, éditeur du journal Impact News. Nous sommes à la fin de cette émission. Que peut-on, selon vous, retenir de ces deux thèmes évoqués ce soir?
Je voudrais dire à mon ami Jean-Marie Kamba qu'au FCC, il n'y a jamais eu de volonté ni d'idéal. D'ailleurs, le jour où ils sont allés pour Kabila, c'est presque autonomé, le formateur du gouvernement, là, ils n'étaient au courant de rien, on les appelle. D'ailleurs, la vidéo qui circule de Kimbuta, il le dit clairement lorsqu'il dit que il négocie une réunion politique. C'est à quelques minutes qu'on les a invités et ils arrivent sur place, ils trouvent un acte déjà rédigé, ils ne devraient même pas le lire. Baat, il avait décrié et dénoncé le même jour dans son compte Twitter. Donc, ils ont signé sans avoir pris connaissance du contenu de cette lettre. Et on connaît comment ça se passe. C'est là où nous en appelons vraiment à la conscience,
merci,
nationale de nos sénateurs,
merci,
qu'ils puissent privilégier l'intérêt national et qu'ils puissent quand même veiller à l'image de la RDC qui ne doit pas être conduite que par des gens qui ont les mains, qui ont le sang aux mains.
Merci.
Bien qu'il ait demandé pardon, on ne peut pas toujours continuer à évoluer dans l'impunité avec les gens sans cœur, avec des gens presque monstres qui n'ont aucun souci, aucune pensée, aucun amour pour cette République démocratique du Congo, ni pour la population.
Merci,
on connaît comment il est hautain, on connaît comment,
merci,
il est imbu de lui-même,
merci,
et qu'on le fasse passer, ça sera pour leur propre
souffrance. Restons dans la mesure. Merci Joël Ndanga, Brunel Kachi, journaliste à Life Télévision. On espère vous garder jusqu'à la fin de votre conclusion. Que peut-on retenir, selon vous, de ces deux thèmes de ce soir? Brunel Kachi? Alors, très rapidement, Jean-Marie Nkamboa avait demandé 25 secondes pour pouvoir réagir, mais brièvement, oui. Jean-Marie, sans avoir l'impression qu'on ne vous a pas donné suffisamment de parole.
Je me réjouis des propos de mon éditeur Joël Kadendanga, et je condamne cette qualité ou bien cette catégorie de politiciens qui, à l'en croire, se permet de signer des documents. Nous avons des docteurs en droit, nous avons des licenciés consorts. Malheureusement,
ils signent
des documents pour lesquels ils n'ont pas eu le temps de lire.
Ce
qui est totalement faux. Et ce sont des documents pour lesquels ils ont eu la maîtrise, ils ont eu la connaissance, ils ont travaillé à leur rédaction.
Merci.
Raison pour laquelle ils ne pouvaient que signer par rapport à ce
que je vous donne l'information.
Et dire qu'ils n'ont pas.
Je vous donne l'information.
C'est vraiment
merci. Baati avait dénoncé et il
merci
avait rencontré
tous les trois.
Zoé Kabila qui avait répliqué.
Merci à tous les trois.
Pourquoi avait-il signé la vidéo de
Kimbuta circule.
Permettez-moi de conclure mon émission.
Permettez-moi de. Ce n'est pas par rapport à la.
Oui, ils sont toujours été invités quelques 30 minutes avant la réunion.
Merci messieurs. Terminons l'émission. Jean-Noël Mokondo à la technique, Kéline Kouté Guimaté à la réalisation, supervision. Kipela Mondo, Donat Madimba, c'est moi à la présentation, tribune de presse. C'est fini pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.